Et c'est l'heure de la chronique hebdomadaire du KKL et on est très content de se retrouver avec Maxi Cliqui. Bonjour Max.
Bonjour Asselé, bonjour chers auditeurs. Malgré le froid, on est là pour vous apporter un peu de chaleur avec les nouvelles d'Israël à travers le KKL.
Un peu de chaleur et un peu de soleil dans nos cœurs, on en a bien besoin. Et aujourd'hui, Max, on va discuter avec toi du sionisme écologique et évidemment du KKL. Alors, pour comprendre ce qu'est le sionisme écologique, peut-être qu'on devrait rappeler certaines petites choses, Max.
Oui, en effet, on va être un peu sérieux aujourd'hui. Bien, le sionisme, tout le monde a déjà entendu parler du sionisme, mais en gros, c'est quoi le sionisme, Asselé ? Eh bien, c'est un mouvement politique et religieux qui vise à rétablir un État juif en Palestine. Donc, c'est quelque chose d'historique, je dirais. Et oui, la Palestine, on comprend que la Palestine, c'était la Palestine qui était occupée par l'Empire ottoman depuis 500 ans et qui a été cédée aux Anglais à la fin de la Première Guerre mondiale. Et voilà, donc ce territoire s'appelait la Palestine.
Alors ok, donc là on comprend ce qu'est le sionisme. Maintenant, on va se demander avec toi Max ce que c'est l'écologie. Alors ça paraît évident, mais je pense qu'en ces temps de réchauffement climatique, il faudrait quand même repréciser ce qu'est l'écologie.
Mais oui, tu dis bien, c'est le réchauffement climatique et, disons, problème à notre mère nature, comme on dit. L'écologie est une doctrine visant à un meilleur équilibre, justement, entre l'homme et son milieu naturel, ainsi que la protection que l'homme doit à ce milieu naturel.
Et depuis plus d'un siècle, eh bien, le KKL s'efforce de défendre et de promouvoir un environnement durable en Israël.
Mais oui, les campagnes d'information du KKL, notamment, sensibilisent la population d'Israël au respect et à la préservation des forêts, des espaces verts, aux sentiers de randonnée, aux chemins de randonnée, pédestres et cyclistes. Donc, il faut que le citoyen israélien soit conscient de cet environnement qui est fragile finalement. Et pour rappel, le KKL a permis la plantation de 245 millions d'arbres sur une superficie de plus de 100 000 hectares.
Et à sa création, le KKL avait pour but d'acquérir des terres pour les futurs émigrants.
Oui, en effet. Lors de ce fameux congrès de Bâle en 1901, eh bien, furent décidées la fondation de ce fonds qui récolterait de l'argent pour acquérir des terrains qui furent achetés mètre carré par mètre carré grâce à l'argent récolté, notamment dans les fameuses petites boîtes bleues, on en a déjà parlé. Et puis rapidement, donc, ces terres furent aménagées et sont axées sur l'agriculture et la plantation des arbres pour le bien-être des populations juives qui venaient à ce moment-là et immigrer en Israël.
Et le reboisement intensif qui est mené par le KKL a garanti du travail à beaucoup de personnes.
Oui, en effet, le KKL a été un des plus gros employeurs du début de la création du pays, parce que les gens, qui venaient ici dans ce pays, ils n'avaient pas trop de travail, ils cherchaient le travail. Eh bien, ils ont été employés comme gardes forestiers notamment. Entre parenthèses, tous nos projets dans le désert du Negev, ce sont des gens du désert, ce sont des bédouins qui s'en occupent. Alors, tous ces employés, ces gardes forestiers, les planteurs, parce qu'il faut des gens pour planter les arbres, pour donner soin aux arbres, eh bien, il faut des gens. Pour travailler dans les pépinières, il faut aussi des gens. Pour notamment aussi faire la recherche dans les centres spécialisés, il faut des gens. Eh bien, voilà, le KKL donc, est un grand employeur, encore aujourd'hui, de cette main-d'œuvre en Israël.
Alors Max, on l'a dit, le KKL, il œuvre depuis plus d'un siècle, un siècle qui a été malheureusement marqué par une tragédie, hein, la Shoah. Alors on se demande quelle a été l'évolution du KKL après cette tragédie, après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, donc il a fallu, après cette fameuse tragédie, comme tu l'as dit, il a fallu accueillir non seulement les rescapés de cette Shoah, il fallait aussi accueillir tous les gens qui voulaient fuir l'Europe et toutes ces horreurs. tous ceux qui avaient envie de faire leur alia et de vivre dans ce nouvel État qui a été créé, je vous le rappelle, en 1948. Donc, après l'établissement de l'État d'Israël, cette politique de reboisement et, je dirais, d'aménagement des terres, eh bien, cette politique prit de l'ampleur, et en particulier dans les déserts, et surtout le grand désert du Negev, où se situe la majorité des projets du KKL. Et également aussi, il n'y a pas que le désert, il y a en Galilée, hein, il y a aussi beaucoup de projets, il y a notamment aussi sur la côte méditerranéenne, la chaîne du Carmel, ainsi que dans les monts de Judée vers la mer Morte, et bien sûr tout autour de Jérusalem, qui est entouré vraiment d'une couronne verte, et grâce aux efforts de tous ces gens, et bien voilà, tous ces projets ont pu vraiment surgir, je dirais, du sable, et voilà, Israël a façonné, du moins le KKL a façonné Israël dans ces nouveaux paysages.
Eh bien, merci beaucoup, Max, pour toutes ces informations et cette chronique toujours très, très intéressante. On était ravis de discuter avec toi et on se retrouve la semaine prochaine.
Pas de souci. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à Sley. Au revoir.
Et c'est à présent le moment de retrouver notre correspondant en Israël, Yitzhak Mopsik. Bonjour, Yitzhak.
Bonjour, bonjour, Sley. Bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. On va un peu avancer dans le temps. La dernière fois, on avait parlé de Tou Bishvat, un peu historique et surtout biblique et talmudique, hein, des longues discussions qu'il y a dans le Talmud concernant Tou Bishvat, qui est un point de référence en ce qui concerne un nombre de, je veux dire, de mitzvot, d'actions religieuses qu'on doit faire, entre autres pour le calcul du nombre d'années d'un arbre. Il faut savoir que quand on plante un arbre fruitier, d'ailleurs surtout, on n'a pas le droit d'y toucher pendant 3 ans, et on peut simplement la 4e année le faire. Ça s'appelle Orla, et le compte de cette période est justement à partir de Tou Bishvat. On a dit aussi que Tou Bishvat, c'est une demi-fête, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas rentrer dans un deuil, parce que c'est un jour de fête sans être officiellement et véritablement un jour de fête. Et on sait le rapport entre l'homme, je veux dire l'homme et l'arbre, hein, puisqu'il y a une célèbre citation qui dit « Adam et sa, c'est-à-dire l'homme est le fruit de la terre et l'arbre du champ ». Pour un peu consacrer le lien entre la nature et le genre humain. D'ailleurs, en Israël, et il n'y a pas longtemps, on a fait les calculs, hein, je ne vais pas fatiguer nos auditeurs à tous les citer, mais on parle de beaucoup de prénoms israéliens qui sont sur la base d'arbres. Les plus célèbres, c'est bien sûr Ilan qui veut dire arbre, et des milliers d'Israéliens qui portent ce nom pour les hommes. Et pour les femmes, Tamar, c'est Dat. En Israël aussi, là, on a des milliers, mais pas seulement, il y a aussi Oren et d'autres, pour les femmes, Rotem, Ilana, Hadas, etc., etc. Donc, c'est ce rapport avec des arbres, c'est un peu particulier. Maintenant, en ce qui concerne la période pré-contemporaine, les origines de Tou Bishvat, parce que, comme je l'ai dit, Tou Bishvat, c'est une date qui était consacrée à la terre et aux arbres, mais moins en plantation. Je veux dire, c'est simplement dans la période pré-contemporaine qu'on a associé Tou Bishvat à ces plantations. D'ailleurs, on trouve la première plantation, je veux dire, pré-contemporaine, en 1884, hein, Yesod HaMaale, c'est dans le nord, là-bas, et à 1500 arbres fruitiers qui ont été plantés par tout simplement par des habitants de là-bas, et plus tard encore 1000 ont été plantés. C'est la première, je veux dire, la première plantation communautaire, hein, qu'on peut trouver dans l'histoire de contemporaine. En 1890 aussi, on a retrouvé historiquement le professeur Yabetz, très connu, qui a aussi organisé une plantation. Et également en 1904, c'était là, en 1904, la vraie grande implantation de l'association des professeurs d'hébreu en Israël, hébreu donc renouvelé, hein, à l'époque. Et il a convaincu donc ses amis, ses collègues, de faire une plantation collective. Et d'ailleurs, selon certains, cette initiative copiée, on va dire, sur l'arbre, et sur la journée des arbres et des forêts, qui était à l'époque coutumière des États-Unis. Hein. Et plus tard, en 1907, aussi à Mikvé Israël, un très connu, des centaines d'élèves ont aussi, de leur côté, faire une plantation C'était reçu en 1919, une plantation pendant l'époque du mandat britannique et aussi au Mons Caupus, hein, Haaretz Sophim, à l'université hébraïque. Il y a eu une grande plantation d'à peu près 3 000 étudiants qui ont été plantés des arbres là-bas. Bien sûr, tout cela en collaboration avec le Keren Keyemet. En 1920 aussi, on trouve une historique de ces plantations-là qui ont été faites par les chefs, cette fois-ci les chefs du mouvement sioniste. Et on peut dire que c'est là la première plantation officielle qui a été faite, qui donne le signe à des milliers de plantations qui ont fait depuis lors. Donc voilà, ça c'est un peu l'historique, le pré-contemporain. La prochaine fois, on parlera de Tu Bishvat aujourd'hui, comment en Israël aujourd'hui, on fait Tu Bishvat au Keren Kayemet et également en Israël.